Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans le réveil culturel. Ce matin en compagnie de Jérémy Moreau. Sa nouvelle bande dessinée, intitulée Le discours de la panthère, éditée chez 2024, est un recueil de 6 fables animalières. Des petits contes philosophiques, si vous voulez. Quoique contes ou fables, ce serait pas tout à fait ça, puisque aucune de ces histoires ne délivre des leçons de morale, mais chacune d'elles invite à la réflexion avec un brin d'humour, ce qui n'est pas de trop quand on aborde les questions existentielles. Jérémy Moreau est mon invité ce matin.
Le réveil culturel. Vendredi, bande dessinée.
Bonjour Jérémy Moreau.
Et bonjour Toufik.
Alors, cette fois-ci, ce sont les animaux qui vous intéressent, hein. Généralement, c'était les hommes face à une nature qui se déchaîne, face à des éléments violents, des hommes qui doivent survivre au milieu de volcans en éruption. On pense bien sûr à l'album qui a fait votre célébrité, puisqu'il a décroché en 2018 le prix suprême du Festival d'Angoulême, le Fauve d'Or du meilleur album, La Légende de Grimm. Et là, les hommes ont disparu, il n'y a plus que des animaux. Qu'est-ce qui vous arrive, Jérémy Moreau?
Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas, j'avais trop d'hommes dans la tête. Tout ça s'est passé, en fait, je regardais des documentaires animaliers avec ma compagne il y a quelques années et j'avais été notamment très marqué par cette séquence dans les documentaires live de la BBC dans lesquels on voyait un dragon de Komodo qui s'attaquait à un buffle. Ce dragon de Komodo reste pendant plusieurs semaines au chevet du buffle. Il attend patiemment que le buffle s'écroule et pour finalement le dévorer avec tous les autres dragons de Komodo. Et cette image m'est restée très fortement dans la tête. J'y ai beaucoup repensé et j'ai vraiment voulu transformer cette matière en histoire. Et à partir de là, le pas était franchi de me projeter dans la tête d'un autre animal et j'ai commencé à élaborer plusieurs petites histoires qui finalement se sont retrouvées sous cette forme dans ce recueil du discours de la panthère.
Puisqu'on parle du buffle, et ben c'est ainsi que s'ouvre votre bande dessinée, le discours de la panthère, un buffle qui essaye de sauver son île d'une comète qui semble se diriger tout droit vers cette petite île. Et voilà, donc il essaye de sauver son île en la poussant lui-même, mais il va être attaqué par un varan.
Voilà, c'est ça. Donc j'ai détourné un petit peu cette séquence du documentaire. Effectivement, ils vont se prendre d'amitié l'un pour l'autre petit à petit. C'était vraiment essayer de me projeter dans la tête d'un animal. Qu'est-ce que ça fait de se retrouver avec sa victime pendant plusieurs jours, pendant plusieurs semaines? Est-ce qu'il ne peut pas se tisser des liens d'amitié entre l'un et l'autre? Et donc, il va se prendre de passion pour ce buffle qui essaye du coup de sauver cette île de cette fameuse comète qui va s'écraser. Et c'est un petit peu un conte sur la vie, la mort. Je pensais un petit peu au roi Summer de Ionesco, où finalement cette île, c'est le royaume de ce buffle, c'est toute sa vie. Et en fait, tous ces flots qui va arriver à faire traverser à cette île, ce n'est que le chemin de sa vie jusqu'à sa mort, puisque finalement, le chemin qu'il a fait parcourir à cette île l'a amené précisément à l'endroit où la comète va tomber. Dernier instant où finalement la mort le rejoint.
Bah, c'est triste.
Oui, mais ce n'est que la première des histoires. Et effectivement, elle introduit le thème qui va courir un petit peu jusqu'à la dernière histoire, le thème de la mort, et qu'on retrouvera que dans la dernière histoire et durant le fameux discours de la panthère.
Un buffle, un varan, un étourneau qui veut s'émanciper de son groupe pour découvrir le monde, un singe qui pleure la disparition d'un être cher quand une autruche, elle, souffre de se sentir si laide, et bien sûr, vous venez d'en parler, une panthère qui philosophe avec Nietzsche. Alors, toute cette ménagerie pleine d'humanité, tous ces contes se recoupent par moments dans ce monde où l'homme est d'ailleurs singulièrement absent. Est-ce que vous avez employé le terme de conte? Est-ce qu'il y avait quelque chose de l'ordre d'une morale que vous vouliez délivrer? Auquel cas, ça m'a échappé.
Non, effectivement, l'idée c'était vraiment de s'éloigner le plus possible des contes moralistes. J'ai une petite fille en ce moment, donc je suis confronté au problème de l'éducation, de lui raconter des histoires et tout ça. Et je déteste absolument lorsqu'il y a une notion de punition, de « tu n'aurais pas dû faire ça, c'était mal », une sorte de jugement. Et donc du coup, appliqué à l'éducation, c'est ce qu'on appelle l'éducation bienveillante. J'essaie de faire des récits bienveillants de la même façon. Je déroule des histoires de personnages, il leur arrive des tracas. J'essaie de reproduire un petit peu tous les aléas auxquels on peut être confronté dans la vie de tous les jours. Et surtout ne pas finir sur une notion de punition, de jugement. Donc de cette manière, ce petit Bernard l'ermite va passer un petit peu à côté de sa vie à chercher constamment la plus belle coquille du monde. Finalement, il va en trouver une absolument somptueuse et il va passer toute sa vie à l'intérieur et il va passer à côté de sa vie de famille. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Ce n'est pas juste une sanction de voilà, à courir après la beauté, on passe à côté de la vie. Et donc, il y a ce dernier petit rebondissement à la fin de l'histoire où finalement, une maman Bernard l'ermite passe avec son enfant. Il tombe amoureux et finalement il repart avec elle.
Est-ce qu'on peut
donc
dire
c'est oui. de cette façon que je construis.
Est-ce que vous avez construit justement ces histoires, Jérémy Moreau, avec des thèmes? Parce qu'il y a le thème de la mémoire, il y a aussi le thème des migrations, c'est-à-dire ce sont des thèmes d'actualité. Alors, bien sûr, ils sont abordés dans des contextes très très particuliers, ce sont des histoires animalières, il faudrait le rappeler, mais bien sûr, ces thèmes, ce sont aussi des thèmes qui nous concernent, nous, les hommes, si étrangement absents dans cette bande dessinée.
Oui, mais c'est ça qui est génial, c'est que moi je n'ai absolument pas abordé la bande dessinée ou construit mes récits en me disant « je vais faire un thème sur la mémoire, un thème sur la mort ». J'ai vraiment fait cet exercice de me dire qu'est-ce que ça peut faire que d'être un éléphant et de devoir veiller sur la mémoire du monde? Qu'est-ce que ça peut faire d'être un étourneau et de devoir constamment faire toujours le même chemin? Et en fait, de manière très légère et simple, je me suis laissé embarquer dans chacune des histoires. J'allais avec chacun des personnages et les thèmes se déroulaient tout seuls, en fait, en me posant alors, qu'est-ce que ça fait que d'être un étourneau, d'être dans le ciel, de voir constamment les mêmes paysages quand on a le goût de l'aventure. Et voilà.
Et cette bande dessinée, elle se présente comme si c'était un livre pour enfants, hein, ne serait-ce que le format de la bande dessinée, format plus grand que vos précédentes bandes dessinées, le dessin aussi, c'est un dessin où la couleur est chatoyante. Est-ce que c'était d'abord le public visé, les enfants, Jérémy Moreau?
Alors c'est très compliqué cette question du public visé, j'aimerais tellement pouvoir l'éradiquer au moment où je formule mes histoires. Le fait que ce soit des récits animaliers, j'ai l'impression, pousse forcément à imaginer que ce sont des histoires pour enfants. Et donc cette injonction s'appliquait même à moi, je m'auto-appliquais cette censure. Et donc j'avais commencé par imaginer ces histoires sous forme de livres pour enfants. Je pensais les publier chez une maison d'édition jeunesse. Et puis à chaque fois que je me mettais à mon bureau pour écrire ces histoires, le fait de me dire ça va être pour des petits-enfants, il va falloir aborder des questions de manière la plus simple possible, me restreindre dans le vocabulaire.
Et dans le trait, on va en parler.
Je n'arrivais pas à toucher de ce que je voulais faire. Mmh. Et dans le trait aussi. Et dès lors que j'ai décidé de les composer dans un recueil, de lier toutes les histoires les unes avec les autres, de ne pas m'empêcher de parler de thèmes philosophiques comme la mort, la mémoire, tout ça, ça a débloqué quelque chose en moi. Donc ça fait un espèce d'objet hybride qui, à mon avis, s'adresse à tous, autant aux adultes qu'aux enfants. Et c'est un petit peu ce qui se passe actuellement dans la trajectoire du livre, puisqu'il est sélectionné pour les pépites à Montreuil notamment. Man gave names to all the animals. In the beginning. Man gave names to all the animals. In the beginning. A long time ago.
He saw an animal that liked to growl. Big furry paws and he liked to howl. Great big furry back and furry hair. I think I'll call it a bear. Man gave names to all the animals. In the beginning. Man gave names to all the animals. In the beginning, a long time ago. He saw an animal up on the hill, chewing up so much grass until she was filled. He saw milk coming out, but he didn't know how. He said, I think I'll call it a cow. Man gave names to all the animals. In the beginning. Man gave names to all the animals. In the beginning, a long time ago. Saw an animal as smooth as glass, slithering his way through the grass. He saw him disappear by a tree near a lake.
Le réveil culturel, Tufik Hakem sur France Culture.
Avec Jérémy Moreau dans sa dernière bande dessinée, il n'y a que des animaux. Une autruche qui est complexée, elle se croit vraiment très moche. Un varan qui est désolé parce qu'il a peut-être provoqué la mort du buffle qui lui essaye de sauver son île. Mais il y a aussi une panthère qui philosophe, un Bernard l'ermite à la recherche d'une maison, et puis aussi des oiseaux qui essayent de trouver une autre trajectoire, une autre vie à celle qui leur est tracée. Sans oublier bien sûr l'éléphant qui a la mémoire qui flanche, or c'est lui qui doit justement transmettre la mémoire. Dans le discours de la panthère, Jérémy Moreau, vous êtes plus sous l'influence de Claude Lévi-Strauss et Philippe Descola qu'à l'ombre de Jean de La Fontaine ou de Rudyard Kipling. Ce qui n'est pas plus mal, mais c'est aussi une manière de nous plonger aussi dans tout ce que vous avez peut-être lu comme étude ethnologique, philosophique.
Oui, je continue de tirer ce fil que j'ai initié avec la saga de Grimr. Et je vogue de lecture en lecture avec Panse. C'était l'occasion de me pencher principalement sur Deleuze et Leibniz, sur la notion de pli, mais en le raccrochant à la nature. Et finalement, c'était assez rapproché de Spinoza et de la notion de conatus et de puissance. De quelle manière est-ce que une force peut s'activer dans une plante pour la faire germer? Et je poursuis mes lectures et qui m'ont récemment emmené, comme vous disiez, Lévi-Strauss ou Descola, et puis aussi des plus jeunes, la nouvelle génération, Baptiste Morisot ou Nastasia Martin, Vinciane Després aussi, qui a fait un livre merveilleux qui s'appelle « Habiter en oiseau ». Et qui explique vraiment ce que moi j'aimerais arriver à mettre en forme dans des récits, c'est-à-dire... imaginer le monde en étant un oiseau. Donc elle parle de territoire chanté. De quelle manière est-ce que le territoire d'un oiseau se forme par le chant, de manière auditive. Le territoire n'est pas juste un espace et des frontières, et il explore tous les sens. Et tout ça, ce sont des pistes merveilleuses à creuser en incarnant les animaux.
Ces lectures, ces questionnements, Jérémy Moreau, s'il fallait parler de leur origine, c'est parce que vous venez d'avoir 33 ans, donc l'âge du Christ, c'est parce que vous êtes père d'une petite fille ou c'est parce que vous avez vécu ce que nous avons vécu ce printemps, le confinement, des questionnements sur notre rapport au vivant et à la nature?
Bon, la philosophie, ça me vient de mes cours de terminale où j'ai eu un professeur absolument sensationnel, monsieur Laurent Amato, avec qui j'ai renoué d'ailleurs récemment. Ensuite, il y a évidemment le contexte de ce qu'on appelle maintenant l'anthropocène. Cette espèce d'angoisse qui pèse sur toute cette jeune génération. On a du mal à se prévoir un avenir. Et voilà, c'est des questions que j'aborde par des philosophes plutôt de la nature. J'ai plus de mal avec le contexte urbain et sociétal. Donc voilà, je sens que mon sujet d'étude se porte plus dans la nature.
Comment vous racontez ce qui nous arrive à votre fille, puisque juste avant de commencer cette émission, vous nous disiez que vous alliez accompagner votre fille à l'école. Elle a quel âge et comment vous lui avez raconté ce qui nous arrive depuis ce printemps, quoi, c'est-à-dire pandémie, confinement, déconfinement, reconfinement, angoisse, stress.
Alors pour tout vous dire, elle a 2 ans et demi, donc pour le moment les explications sont très très light. Le coronavirus, on appelle ça le cocovirus, c'est comme ça qu'ils l'appellent aussi à l'école Montessori. Pour le moment, j'avoue que je ne sais pas encore, on n'a pas vraiment abordé tout ça, on est dans l'apprentissage du langage, et donc finalement je suis encore dans des considérations extrêmement primitives et naturelles de la marge, du langage, de la prononciation, et peut-être pas de la grande réflexion cérébrale.
Le réveil culturel, Tufik Akem sur France Culture.
Pour cette dernière bande dessinée, Le discours de la panthère, vous avez opté pour un trait plus fin, plus classique, avec très peu de dialogue, c'est-à-dire qu'on est loin de cette recherche picturale que vous avez entamée avec la légende de Grimm, où on se souvient, vous avez utilisé vraiment de la peinture, de la gouache pour raconter cette histoire.
Oui, alors il y a plusieurs raisons à ça. D'une part, il y a une recherche de gain de temps. Ça commençait à devenir pesant de devoir passer 2 ans, 2 ans et demi pour tomber un album. Et donc c'est ma compagne, au détour d'une randonnée, qui m'a dit « Mais je comprends pas pourquoi tu ne changerais pas de technique, pourquoi tu n'essaierais pas de trouver un moyen d'aller plus vite, toi qui as toujours peur de ne pas avoir le temps de raconter toutes les histoires que tu veux raconter dans ta vie ?» Et c'est vrai que c'est une obsession, j'ai toujours peur de pas vivre assez longtemps pour raconter tout ce que j'ai à raconter. Et donc voilà, l'outil numérique m'a permis d'aller plus vite et il a nécessité de me réinventer aussi.
Des couleurs d'ordinateur, et pour le trait ?
Le trait aussi, le trait également est à l'ordinateur. Et effectivement, il y a eu une sacrée refonte par rapport à la saga de Grimm, où je pense que c'était aussi une œuvre plus de jeunesse et j'étais dans un besoin de démonstration aussi de ce que j'étais capable de faire au niveau des postures, des corps, des couleurs. Et puis là, plus ça va, plus je suis dans une recherche d'épure. Pendant ce confinement aussi, je lisais beaucoup Babar de Jean de Brunhoff à ma fille. Et j'étais vraiment fasciné par la simplicité de ce trait. Assumer de ne faire des yeux qu'avec des petits points, ça c'est le genre de choses que j'aurais été incapable de faire à l'époque où j'étais au Gobelin, où je devais absolument montrer que j'étais capable de parfaitement dessiner les cils, la pupille, de faire des yeux très expressifs. Et finalement, tout ça peut être contenu dans un petit point. Voilà, ça fait partie des grandes transformations de mon style graphique.
Enfin, Jérémy Moreau, quand vous dites que j'ai encore plein d'histoires à raconter, qu'est-ce qui est à l'origine d'une histoire ? Quelles sont les histoires que vous voulez raconter ? C'est tout ce que vous avez vu, tout ce que vous avez lu, tout ce que vous n'avez pas pu expliquer ?
Eh bien, je crois que l'origine de tout ce stock, c'est juste un enfant de 4-5 ans qui regarde son Velux et qui voit les étoiles et qui se demande qu'est-ce que je fous là? Qu'est-ce que je suis? Qu'est-ce que c'est la vie?
Et qui est toujours présent, alors qu'aujourd'hui, il est toujours là?
Qui est toujours très, très, très présent. Oui, oui, mais je me souviens de mon professeur de philosophie qui nous avait dit attention les petits amis, de 18 à 25 ans, c'est là que vous allez pouvoir vous poser les questions philosophiques et ensuite vous n'aurez plus le temps, puisque vous serez emporté dans la vie active et vous n'aurez plus le temps de réfléchir à ces choses-là. Et finalement, c'est resté très très présent en moi, toujours. Je me réveille souvent en me demandant qu'est-ce que c'est la vie finalement. Et donc c'est ça aussi qui me pousse à transformer ces questionnements sous forme de récit.
Jérémy Moreau, le discours de la panthère. Merci d'avoir répondu à distance à mes questions, Jérémy Moreau.
Et merci beaucoup, merci à vous.
Le réveil culturel de Toufik Hakem est à retrouver sur franceculture.fr ou en passant par l'application Radio France.
Émission préparée avec Corinne Amar, réalisée par Vincent Abouchard avec ce matin la prise de son Souad Boukoursa. Excellente fin de semaine, on se retrouve lundi.